Vous êtes sur RTL.
.fr.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, merci d'écouter RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Bonjour Manon Aubry.
Bonjour.
Est-ce que Thomas Guénolé est toujours ce matin 14e sur votre liste pour les européennes?
Non, il n'est plus 14e.
Il a été débarqué hier?
Alors, il s'est débarqué tout seul. Vous savez, il y avait une enquête qui était en cours en interne. On avait recueilli le témoignage d'une jeune femme pour des faits qui pouvaient s'apparenter à du harcèlement. Je crois que Thomas Guénolé a pris les devants en faisant une instrumentalisation politique que je déplore et en se retirant lui-même de la liste.
La jeune fille en question, pardon, elle a porté plainte ou pas?
Alors,
devant
pas,
la justice.
C'est pas à moi de vous donner cette information, c'est la jeune femme en question qui choisit ce qu'elle fait de cette histoire.
Donc pour l'instant, c'est une procédure qui était ouverte à France Insoumise. Vous dites que Thomas Guénolé, en publiant cette lettre d'une rare violence hein, dans laquelle il cible Mélenchon, qualifié d'autocrate, distant des militants, Manuel Bompard, qui est votre numéro 2 sur la liste, et qualifie lui d'homme de paille, de paratonnerre, enfin, tout est à l'avenant, c'était une façon de prévenir des accusations en réalité d'harcèlement sexuel.
Je crois qu'il y a une... Je crois que le hasard du calendrier parle pour lui-même. La cellule d'écoute qui existe en interne à la France Insoumise avait recueilli le témoignage de cette jeune femme, avait fait un rapport en conclusion et l'avait transmis au comité électoral qui devait prendre sa décision sur le maintien ou non de Thomas Guénolé sur la liste. Le comité électoral n'avait pas encore pris sa décision et Thomas Guénolé a pris les devants. Pointant du doigt des prétextes politiques, là où à l'origine il y avait un dossier sérieux et que nous prenons
un
très au
sérieux.
Présomption
d'innocence.
Mais bien sûr qu'il y a la présomption d'innocence, et je vous signale que la décision n'était pas encore prise par le comité électoral. Mais moi je veux le redire, nous sommes une organisation féministe, et nous prenons au sérieux l'ensemble des témoignages de jeunes femmes qui peuvent nous contacter et émettre des doutes ou raconter des histoires qui peuvent s'apparenter à du harcèlement. Nous le prenons très au sérieux, et je le prends d'autant plus au sérieux en tant que jeune femme qui est aussi tête de cette liste.
Il y a quand même une drôle d'ambiance dans le parti, c'est pas tous les jours... que pour des raisons que vous dites hein, d'instrumentalisation, mais quand même qu'un homme aussi engagé qu'il l'était dans le parti cherche à torpiller les principaux responsables. Ça ne vous met pas mal à l'aise?
Franchement, je vais vous répondre honnêtement. Ça me dégoûte. Parce que moi, je ne fais pas de la politique pour ça. Je ne fais pas de la politique pour qu'un homme qui est accusé par une jeune femme utilise cette histoire pour en faire de l'instrumentalisation politique. Je fais pas de la politique pour ça. Et ouais, ces jours-là, ça vous donne pas envie de faire de la politique. Mais moi, j'ai envie de me battre, et je veux dire à toutes les jeunes femmes qu'on prendra toujours au sérieux leurs témoignages.
Donc c'est un coup dur quand même pour vous?
C'est un coup dur à titre personnel, parce qu'on fait pas de la politique pour ça, parce que je viens ce matin chez vous, en interview, et que malheureusement, on doit prendre plusieurs minutes de mon temps de parole pour expliquer cela, alors qu'on fait campagne pour les élections européennes, et je veux penser aussi à tous les militants sur le terrain.
Et vous trouvez ça normal qu'on en parle,
bien sûr. Et je réponds sans problème, et je suis à l'aise pour répondre à vos questions. Mais je veux penser aussi, vous savez, à tous les militants de terrain qui n'ont rien demandé, qui se battent au quotidien pour défendre un projet de transformation radicale de la société, et tous leurs efforts peuvent être anéanti l'espace de quelques jours pour juste l'attitude d'un seul homme sur cette liste. Moi, je le regrette et c'est pas pour ça que j'ai envie de faire de la politique. Et je mettrai cette même énergie pour le combat politique et non pas pour ces histoires qui, franchement, sont les trucs les plus bas de la politique, quoi.
Alors, vous dites, effectivement, je ne fais pas de la politique pour ça. Vous avez très bien expliqué pourquoi cette question vous dégoûtait. Pour autant, vous n'êtes pas quelqu'un qui ne fait pas de polémique. On va parler maintenant de Notre-Dame. Après l'incendie, vous avez nourri cette polémique en accusant les grandes entreprises donatrices d'avoir une générosité finalement très relative, puisqu'elles défiscalisent et que par ailleurs, elles font de l'optimisation fiscale. Vous êtes une spécialiste hein, de l'évasion fiscale. Vous étiez chargée de ce dossier dans votre vie antérieure à Oxfam. Mais donc, vous connaissez ces questions par cœur, d'accord. Mais la question qu'on se pose, était-ce bien le moment? Était-ce bien le moment, quelques heures après l'incendie de Notre-Dame, de porter cette question-là, de faire cette confusion entre un don et les pratiques fiscales éventuelles des entreprises?
Ce n'est pas une confusion. D'abord, ce n'était pas quelques heures avant, c'était deux jours après.
C'était un jour et demi après.
Et moi, ce qui m'a fait réagir, c'est toute l'opération de communication qu'il y avait autour de nos personnes les plus fortunées en France, M. Arnault, M. Pinault, l'entreprise LVMH, qui en un claquement de doigts faisait sortir des centaines de millions d'euros, le tout défiscalisé. Et s'ils ont renoncé à leur exonération d'impôts...
C'est le principe d'impôts, du mécénat. Le mécénat, eh bien, on choisit les causes que l'on veut servir avec l'argent dont on dispose. Il aurait fallu qu'elles fassent quoi, ces entreprises?
Payer leurs impôts.
Par rapport à Notre-Dame, vous auriez préféré que quoi? Qu'elles ne donnent pas ou qu'elles donnent moins? Elles auraient donné 10 millions, alors, vous auriez trouvé ça moins cher.
Plusieurs choses. D'abord, je veux dire que l'émotion qui est partagée autour de Notre-Dame, nous la partageons complètement. Et c'est une émotion sincère de la part de centaines de milliers d'anonymes qui, eux, ont aussi donné de l'argent. Et d'autre part, ces grandes richesses-là, on voit qu'ils se sont empressés de communiquer sur un montant d'un don qui était exonéré d'impôts, donc qui se faisait sur le dos du contribuable et qui en même temps mettait en lumière les inégalités criantes de notre pays quand 8 milliardaires en France possèdent autant que les 30% les plus pauvres. Et on a vu la réaction par exemple de la Fondation Abbé Pierre qui disait nous on est très attachés à la Fondation Abbé Pierre à Notre-Dame, mais en un claquement de doigts comme ça sortir des centaines de millions d'euros alors qu'on nous dit que les caisses sont vides, qu'ils poussent des cris d'orfraie.
Alors, cela dit, dans
qu'ils
cette
poussent
affaire,
des cris d'orfraie au moment
l'État
du rétablissement de l'ISF
dans
par
cette
exemple
affaire. Elles aident l'État à payer la réparation, donc c'est autant d'argent public en moins à sortir des
mais
caisses.
Vous savez, le meilleur moyen d'aider l'État à payer les réparations de Notre-Dame, c'est tout simplement de payer sa juste part d'impôt. L'entreprise de Pinault, Kering, il y a un dossier, le plus gros dossier de fraude fiscale et d'évasion fiscale à hauteur de 2,5 milliards d'euros. On pourrait payer énormément de rénovations de Notre-Dame.
Ceux qui créent ces polémiques n'aiment pas l'unité, c'est ce que disait Jean-Michel Blanquer à votre place hier, il parlait de vous entre autres. Vous montez les uns contre les autres, c'est
bien
ce que
sûr que non, mais je vous l'ai dit, je crois qu'il y a une émotion
dans ces moments-là,
sincère, il y a une émotion sincère et solidaire autour de Notre-Dame. Et je vous le redis, et je pense à tous ces milliers d'anonymes qui ont été touchés, qui ont donné 10 euros, 100 euros, et d'ailleurs qui n'ont pas fait une opération de communication autour de leur don. Peut-être que vous avez donné aussi à titre personnel, peut-être que je l'ai fait, et qu'on soit croyant ou non d'ailleurs. Et donc c'est ça qui compte aujourd'hui. Mais ce qui peut quand même poser question, c'est la facilité à laquelle ils ont donné des centaines de millions d'euros alors que, je vous le disais, ils poussent des cris d'orfraie au moment où on discute de payer leur juste part d'impôt, lutter contre l'évasion fiscale ou même rétablir l'ISF.
Manon Aubry, on parle des européennes. Jean-Luc Mélenchon avait répondu à la lettre d'Emmanuel Macron par une tribune appelant à sortir des traités. Il en a fait la mère de toutes les batailles. Sortir des traités qui ont figé toutes les politiques économiques dans le dogme absurde de l'ordo-libéral. Fin de citation. Sortir, comment vous faites?
Alors, concrètement, il faut comprendre ce que sont d'abord les traités européens. Non, mais c'est important.
Mais
je suis désolée, il faut 30 secondes.
Comment. Je viens de le dire.
Interrogez vos auditeurs. Est-ce qu'ils savent ce que sont les traités européens? Donc, les traités européens posent des contraintes, des obstacles dans la conduite d'une politique progressiste en imposant le libre-échange et en organisant le grand déménagement du monde, en empêchant d'investir massivement dans la transition écologique ou en mettant en concurrence nos services publics qui se traduit par la fermeture de petites lignes de train ou de petites gares. Concrètement, ce que nous proposons, c'est d'abord, à l'aide du rapport de force que pèse la France, deuxième économie de l'Union européenne, 18% de l'économie, une contribution de 16 milliards d'euros, nous mettons ces outils et ces leviers dans la négociation pour soit demander une renégociation collective de ces traités européens, soit, quoi qu'il arrive, ne pas respecter ces dispositions.
Vous savez parfaitement que cette renégociation, elle doit être obtenue à l'unanimité.
Bien sûr. Est-ce que ça a déjà été tenté?
Vous êtes avec qui? Parce que vous dites, on fait un rapport
de force. Alors, on fait partie d'une alliance européenne qui s'appelle maintenant Le Peuple, Podemos en Espagne, Le Bloco au Portugal. Vous me regardez comme ça, il y a des élections le 28 avril.
Il y a 28 pays.
Bien sûr, mais je commence à vous donner la liste.
C'est pas beaucoup.
L'Alliance Rouge-Verte au Danemark, le Parti de Gauche en Suède, je pourrais continuer la liste. Donc nous sommes profondément internationalistes.
Est-ce que vous avez la moindre chance, Manon Aubry, d'obtenir l'unanimité? C'est la question, la seule question. Vous dites sortir des traités. Est-ce que vous pouvez y arriver?
Bien sûr qu'on peut y arriver.
Vous ne racontez pas des histoires là?
Mais non, mais c'est ceux qui nous promettent l'Europe sociale depuis des années et qui nous racontent des histoires. Parce que ceux qui ont promis l'Europe sociale sans s'en donner les moyens dans le cadre des traités européens actuels, qui mettent en place la concurrence généralisée au niveau européen, qui mettent en place le dumping fiscal et le dumping social, là on est dans une impasse. Et donc nous essayons de nous donner les moyens.
Si vous ne renégociez pas, pardon, si vous n'y arrivez pas, vous faites quoi?
Eh bien c'est le fameux plan B, c'est de dire que...
Il existe toujours?
Ah bien sûr qu'il existe toujours.
Donc sortir?
Non, c'est pas sortir de l'Union européenne. Le plan B, c'est de dire qu'on le fera quand même. Et là, on est
unilatéralement.
Dans unilatéralement, ne pas respecter ces dispositions. Et donc concrètement, on irait voir
vous
Bruxelles.
Vous serez sanctionné par Bruxelles.
Bien sûr. Et est-ce que vous pensez pas que c'est un, tout ça est un rapport de force quand il s'agit
de vous
sanctionner
que menacer attendez, de sortir unilatéralement, quand, ça suffira à renégocier
quand,
les sanctions.
Quand il s'agit de sanctionner la France pour non-respect de la règle de déficit, dans la seconde, on voit la Commission européenne. En revanche, quand il s'agit de sanctionner la France quand elle ne respecte pas les normes de pollution européenne, ça a mis 10 ans avant que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie par l'Union européenne et pour qu'elle poursuive la France. Et donc tout ça est une histoire de rapport de force. Mmh. Et la France, l'Union européenne ne peut pas se faire sans la France. L'Union européenne va droit dans le mur telle qu'elle existe à l'heure actuelle.
Tout seul, faire non, sans l'Europe parce que vous vous exposez à des sanctions financières, vous n'aurez plus droit de vote au Conseil européen. Donc de fait, vous sortez de l'Europe.
Non, mais on ne sort pas de l'Union européenne. Je ne peux pas vous le dire plus clairement que ça. Mais vous savez, on n'a jamais essayé de peser ce poids-là dans la négociation européenne. Moi, je pense au pouvoir de la France. Je vous le disais, c'est la deuxième économie européenne. Et je pense qu'on peut peser véritablement dans ces négociations-là. On n'a jamais essayé de le faire. Et il y a un outil supplémentaire, c'est la souveraineté populaire. C'est ce que demandent et attendent les Français. On est quelque part les héritiers du non sur le traité constitutionnel européen en 2005 qui n'a pas été respecté.
Marno Ambry, un dernier mot. Vous attendez quoi des annonces? Des annonces d'Emmanuel Macron, j'allais dire, on en a eu peut-être un aperçu, mais rien n'était officiel. Mais cela dit, vous en attendez quoi ?
Bah pour ça, il faut voir d'abord quelles étaient les attentes des Français. Davantage de justice fiscale, rétablissement de l'ISF, plus de progressivité de l'impôt, ou même un référendum d'initiative citoyenne, ou la hausse du SMIC. Je crois que sur chacune de ces propositions, il les a balayées d'un revers de la main. Je le regrette, même si à la marge, il y aura peut-être des choses intéressantes, je l'espère encore.
Merci beaucoup d'avoir été ce matin sur RTL. Manon,
merci à vous.
Et comme chaque jour, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site.